Bonjour et bienvenue sur Fréquence Mistral pour un nouveau Jardin des mots. Jardin des mots pour lequel j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Daniel Garasimenko, que nous connaissons puisque nous l'avons rencontré au printemps de l'année dernière pour parler peut-être de toute autre chose. Alors Daniel, et bonjour Daniel d'abord.
Bonjour Christiane et bonjour
Odile. Et bonjour Odile.
Et bonjour Odile.
Bonjour, merci.
Alors Daniel, vous êtes directeur de l'Office de tourisme des Hautes-Terres de Provence. Et avant d'aller plus loin, on va écouter le petit morceau que vous avez choisi pour ouvrir cette rencontre.
Bien.
Tiens-tu encore debout, debout depuis l'éternité des larmes, quand moi je suis presque à genoux. Toutes ces guerres à refaire chaque jour font le lit de ma nuit sans retour. Dis quel est le secret de ton âme, dis-moi, ô femme.
Amour, amour, amour est plus fort. Amour, 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 tu l'amores comme une pierre. Le feu, je dois tenir, tenir pour deux, pour que tu sèmes d'autres siècles dans mon ventre. Amour, amour, toi tu es le sel et moi la terre, il nous reste des hommes à faire.
Toutes ces guerres à refaire chaque jour font le lit de ma nuit sans retour. Dis quel est le secret de ton âme, dis-moi, ô femme.
Amour, amour, amour est un fort amour. Amour, amour, galère. Pra depois devolutá-lo dar por dois, pra que semeie outras eras no meu ventre. Amor, amor, você é o sal, eu sou a terra, nosso barro os homens é.
Comment tiens-tu encore debout, debout depuis l'éternité des larmes, quand moi je suis presque à genoux.
Alors Daniel, il nous reste des hommes à faire. Moi j'entends dans cette, dans votre choix là, j'entends Hautes-Terres, une ode, finalement une espèce de métaphore qui me sourit assez. Haute-Terre, et puis ce ne sera pas le Brésil, peut-être sera-ce un petit peu l'Italie. Est-ce que je me trompe ?
Oui, c'est certainement dans le monde de toute façon, mais c'est vrai que cette chanson me plaît particulièrement par ses harmonies, par tout l'esprit qu'elle peut dégager.
Alors on va faire tout à fait, comme d'habitude d'ailleurs, un bouleversement dans ce que j'avais prévu. C'est que vous attaquez d'entrée sur la musique. Et je crois que la musique a une grande place dans votre vie.
Oui, c'est exact. Oui, on improvise effectivement. Oui, on peut scinder un peu l'existence jusqu'à présent en trois sections. Une première section consacrée pendant 25 ans à la musique. Ensuite, un peu en fondu enchaîné, 25 ans consacré à l'électronique, avec des études d'ingénieur électronicien. Et puis ensuite, un transport dans les hautes terres que vous aviez évoqué précédemment, pour y vivre depuis maintenant presque 25 ans.
Oui, alors pas tout à fait un enfant du pays. J'ai très envie de vous lire juste quelques petites phrases de Pierre Magnan sur ces hautes terres, justement. Depuis longtemps, je suis fascinée par le courage et la patience des habitants du pays de la Sasse et du Grand Vallon et par leur obstination à aimer vivre ici plutôt que partout ailleurs. Quand je songe à Thurier, à la Motte, à Belle Affaire, c'est comme un leitmotiv, à une basse continue qui viendrait orchestrer le reste de nos basses Alpes, sans l'harmonie desquelles il manquerait quelque chose à notre symphonie. Nulle part ailleurs, la pauvreté n'est moins vice qu'en ces lieux où le courage de l'homme ne perd jamais patience. Lorsque je veux faire comprendre ce que sont les basses Alpes aux quelques âmes sensibles que je compte parmi mes amis, c'est ici que je les conduis, de Sisteron à Seine par la Motte du Caire, Thurier, et pour couronner le voyage, le col des Garennais. Alors, votre lieu de prédilection et de résidence, et d'amour, si je puis dire, ce sont ces hautes terres.
Exact. Maintenant, depuis 1982, 81, 82, oui, ça fait donc un bail.
Quelques
ça fait 30, 35 ans, oui, que nous vivons là avec ma femme. Et puis, nous essayons le plus possible de rendre un tout petit peu à ce territoire tout ce qu'il nous a donné en nous permettant de nous installer dans ces hautes terres de Provence.
Alors, vous avez écrit, on va revenir un petit peu après sur votre passé, mais vous avez écrit un texte que j'aime beaucoup dans la présentation de ces trois petits volets, enfin petits, pas si petits que ça d'ailleurs, des enfants des hautes terres, dans ce décor dantesque, sculpté par les glaciers, seule la ténacité de ces générations de basalpins pouvait permettre une intégration dans un milieu, si ce n'est hostile, du moins souvent inhospitalier. Tout ou presque devait y être produit sur place, depuis le plâtre rose pour bâtir, extrait des innombrables carrières locales de gypse, en passant par la laine, les cordes de chanvre, le miel, l'huile de noix et le vin. Aujourd'hui, ces terres noires devraient être à nouveau sereines et peuvent s'enorgueillir, au-delà de leur production fruitière réputée, des originalités touristiques très attractives. Alors, je crois savoir, mais vous allez nous éclairer sur le sujet, que depuis 1994, il y a tout un travail qui a été entrepris par l'Office, justement, l'Office de tourisme, pour mettre en valeur un territoire, mais pas simplement le mettre en valeur au travers d'un tourisme anecdotique, si je puis dire. C'est vraiment au cœur de ces hautes terres que vous avez souhaité emmener.
La démarche qui a été entreprise dans l'Office de tourisme des Hautes Terres de Provence a été tout d'abord une recherche de contenu pour essayer de comprendre ce territoire, ses habitants, tous ces gens-là qui ont façonné ces territoires depuis l'Antiquité. Et donc, il est vrai que nous avons accordé une priorité à faire des recherches pour essayer de comprendre et cette histoire de ces 20 villages, puisqu'en fait c'est un petit territoire qui est constitué d'une vingtaine de petits villages, dont le plus grand est la Motte du Caire, avec presque 600 habitants aujourd'hui.
Alors, est-ce que le premier travail a été historique? Le livre sur les itinérances est-il la première action vers laquelle vous ayez été entraîné, si je puis dire?
Oui, c'est exact que la première action a été un travail de collecte historique, d'inventaire du patrimoine, inventaire du patrimoine local qui a été fait avec, bien entendu, un certain nombre de personnes qualifiées, que ce soit des médiévistes, des historiens, des archéologues. Il y a tout un travail qui avait été fait avec le service régional d'archéologie. Donc tout ce travail a été accumulé. Cela a pris presque 3 à 4 années. Et je dirais que le fruit de cette accumulation, un des premiers fruits de cette accumulation, a été l'apparition, l'édition de ce livre Itinérance médiévale, qui est un livre qui est aujourd'hui épuisé.
Hélas, oui.
Oui, qui a eu beaucoup de succès et qui, effectivement, avec des partenaires assez prestigieux, comme Jean Gagnepin, qui avait prêté sa plume pour travailler dans ce livre, avec donc un certain nombre de personnalités, de compétences, et qui ont fait qu'avec des travaux d'un photographe très talentueux, des dessinateurs, enfin, tout ceci a permis, avec d'ailleurs Pierre Coste, qui a été qui a fait tout le travail d'édition et de mise en page, qui a mené tout leur cœur à cet ouvrage et qui a sans doute trouvé là les raisons de son succès.
Une réédition possible ?
Difficile, parce que le coût de la réédition coûterait presque le double de ce qu'il se vend. Quoi. C'est pratiquement impossible à rééditer.
Alors, est-ce qu'on envisagerait une souscription ? Soyons fous, vous l'avez toujours été jusqu'à présent et ça a remarquablement réussi.
Oui, c'est vrai que bon, là, c'est vrai qu'on bute pour le moment sur des problèmes financiers. Mais c'est vrai que ce livre, ça nous a procuré beaucoup de plaisir et beaucoup de soucis pour le réaliser.
Bon, alors on va laisser un petit peu place à, je ne sais pas, à la nostalgie. On écoute votre deuxième choix musical.
Volontiers.
Et on écoute Barbara.
Volontiers.
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même. À Göttingen, pas de quai, pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen, et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence. À Göttingen, bien sûr, nous avons la Seine. Une autre bois de Vincennes, mais Dieu que les roses sont belles. À Göttingen, nous avons nos matins blêmes et l'âme grise de Verlaine. Eux, c'est la mélancolie même. À Göttingen, quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent. Mais les enfants, ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Au fait que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine. Car il y a des gens que j'aime. À Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. La, 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 la. À Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour
Göttingen. Bien sûr, ce n'est pas la Seine.
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, non, non. Mais l'écho est sensible là quand même. Alors je vais profiter pour faire à nouveau un retournement un petit peu acrobatique, hein, puisque dans les derniers travaux, enfin les derniers travaux, comme vous êtes toujours en création et en invention et en recherche, ce ne sera certainement pas les derniers, mais revenir, grâce ou à cause de Barbara qui parle des anciens en fait, surtout le travail que vous avez fait autour des Hautes Terres, aux enfants des Hautes Terres. Alors j'ai beaucoup aimé cette démarche qui a été la vôtre, qui a ce souhait de rencontrer les derniers témoins d'un monde qui passe, hein, et je voudrais que vous nous racontiez un petit peu l'histoire de cette histoire-là, parce que j'ai sous les yeux trois petits livres, trois livres que vous avez choisi de présenter dans une collection un peu exceptionnelle qui est un emboîtage, hein, qui est aussi épuisé, me semble-t-il. Donc, Daniel, vous pouvez nous raconter, alors comment c'est venu, je m'en doute un petit peu, mais la masse de travail que vous avez réalisé, moi, m'a beaucoup impressionné.
Ce travail, c'était un travail de collecte, hein, qui, en fait, était une continuité de tout ce travail que nous faisions avec la médiathèque et à la rencontre de d'autres personnes qui faisaient d'autres collectes dans d'autres régions. On s'est dit qu'il fallait à tout prix mettre sur papier toutes ces histoires personnelles de ces quelques anciens qui subsistaient et qui témoignaient d'un art de vivre. Je dis bien d'un art de vivre parce que c'était un art de vivre.
Si vous le permettez, Daniel, je voudrais juste préciser qu'on est là dans le cadre d'une collecte sur l'humain. D'une collecte scientifique. C'est oui. Une collecte, c'est un recueil de témoignages extrêmement sensible, je dirais, mais qui ne se veut pas et qui ne revendique pas d'être une collecte scientifique.
Ah oui, non, c'est certainement pas un travail ethno sur le territoire. Ça, c'est simplement essayer de retranscrire des tranches de vie qui relatent d'un mode qui a disparu maintenant avec la mécanisation. Et donc, on est parti à la rencontre sur ces 20 villages. On est allé à la recherche de toutes les personnes un peu remarquables qui avaient la faculté de nous parler d'un aspect de ce mode de vie qui a disparu pour tout ce mode d'existence qui se déroulait, dans la première moitié du XXe siècle. Et donc, on est allé à la rencontre de ces gens. On les a écoutés, on a enregistré leurs propos et ensuite on a essayé de retranscrire le plus fidèlement possible ce qu'ils nous ont dit. Et tout ceci fait l'état de ces trois petits livrets, donc qui recueillent à peu près une trentaine de témoignages sur les 50 que nous avions recueillis sur le territoire. Et donc on évoque le curé, l'instit, on recueille l'histoire du travail avec les animaux, avec les chevaux, les travaux de berger, les commerçants tels qu'ils existaient, enfin tous les aspects de la vie de tous les jours et d'un mode d'existence qui était certainement beaucoup moins confortable qu'aujourd'hui, qui était beaucoup plus axé sur le rythme solaire, mais qui finalement, chez toutes ces personnes qu'on a rencontrées, elles ont toutes témoigné d'un mode de vie qui était infiniment plus auspicieux, plus harmonieux, même si les conditions de vie étaient, semble-t-il, plus difficiles.
Alors, je dirais plus humain et solidaire.
Voilà, plus humain et solidaire, tout à fait.
Alors, petit témoignage, petit exemple qu'on trouve dans le volume 2, sur l'eau. L'eau dans les temps. À l'époque, pour arroser, les gens regardaient bien l'heure, parce qu'il y avait un règlement qui donnait tant d'heures à chacun pour arroser le jardin. Les gens parfois n'étaient pas d'accord et pour une minute de plus ou de moins, ils se disputaient. Il y avait un vieux registre où l'eau était attribuée aux parcelles avec les jours et les heures d'utilisation. Et vous savez que les gens sont toujours pressés et il y en a qui prenaient l'eau un peu plus tôt et cela faisait des querelles qui, de temps en temps, se finissait dans le manche de la pioche.
Oui, c'est ça qui était magnifique à écouter, hein, de tous ces témoignages, c'est qu'en fait, on avait l'impression un peu d'être des intrus dans un monde d'existence disparu.
Tout à fait. Alors autre chose, hein, même si je sais qu'il n'y avait que Bibi et Loi qui s'accommodent avec plaisir des intempéries, je lis le témoignage de Jeanne Brémond sur la colporteuse. Soudain, me faisant sursauter, la porte de l'auberge s'ouvre, poussée violemment par un visiteur encapuchonné, ruisselant de toutes parts. Avant même de découvrir son visage, je la reconnais à son chien qui s'ébroue et à sa gouaille. La Moulette, notre colporteuse. Bon Dieu, le sas, ce n'est pas beau, j'ai mal choisi mon jour. Je languissais d'arriver car je suis trempée. Elle arrive avec Anne et Charrette pour nous proposer chaussettes, mouchoirs, petits souliers, pantoufles, parfums qu'elle extrait d'une multitude de petites boîtes. D'habitude, elle nous visite au printemps, mais avec une méchante pneumonie, elle est restée alitée pour 2 mois. Il faut dire qu'elle n'est accompagnée que de son chien. Elle marche à côté de sa carriole, tractée par son âne, depuis Valerne pour atteindre la motte du Caire, où elle a coutume de dormir à la belle étoile sous les platanes, avant de terminer sa tournée à Clamensanne. Elle n'en revient que lorsque tous ses trésors ont connu acquéreur. C'est vrai que ce n'est pas un mode de vie très facile. Et que c'est extrêmement visuel. Ces collectes sont... Enfin, moi, c'est tout à fait porteur d'images très fortes.
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en l'écoutant, on a plaisir à se replonger dans tout ça. Et avec un peu de nostalgie aussi, parce que sur cette trentaine de témoignages, du moins sur les 50 personnes qu'on a rencontrées, c'est un projet qui s'est terminé il y a à peu près 3 ans maintenant. Hein. Et en fait, je dirais qu'il y a presque la moitié des témoins qui ont disparu. Donc, c'est vrai qu'on réécoute ça avec beaucoup de plaisir.
Alors, comment faisiez-vous ? Vous preniez des rendez-vous ? Est-ce vous qui connaissiez suffisamment de monde ? Comment s'est passé le repérage aussi de ces témoins ?
Alors, c'est vrai que l'office de tourisme existe depuis 1994. Ce travail a été fait en 2010-2011. Il a pris presque un an et demi, 2 ans. Et donc, ça faisait donc une bonne vingtaine d'années que nous étions sur le territoire. Et bon, le fait de tourner finalement sur ce petit pays, hein, parce que c'est un petit territoire qui fait 3000 habitants, et ça fait 25 km sur 25 km. Donc, on en arrive quand même tant soit peu à presque avoir une information sur tous les anciens, mais en se renseignant avec les uns, avec le réseau, on va dire, local que nous avons pu tisser pendant toutes ces années, eh bien, on avait l'information sur la personne qu'il fallait rencontrer et on prenait rendez-vous. C'est tout le temps, on a été merveilleusement accueillis en termes de disponibilité, en termes de chaleur et en termes de... pour se livrer dans ces histoires. Et d'ailleurs, ce qui était extraordinaire, c'est qu'une fois que le texte était collecté, était en quelque sorte réécrit, on allait bien évidemment soumettre ce texte aux personnes que nous avions rencontrées. Et là où c'était magnifique, c'est que très souvent, elle découvrait ce texte comme si ça venait de quelqu'un d'autre qu'elle-même, et elles en pleuraient très souvent de joie, de plaisir et de tendresse en écoutant leur propre vie racontée en quelques mots.
Et même si vous savez que le vin doux caresse tant le palais que Bonnette, une bonne vieille de Claret en finira pompette. Il y a de l'humour dans ce que vous savez recueillir.
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Oui. Et non, mais il se livrait avec beaucoup de joie. Hein. Ils évoquaient tous une période où il y avait beaucoup de joie, quoi. Même s'ils avaient, comme vous évoquiez tout à l'heure, parfois des petites tensions pour des problèmes de pâturage, des problèmes d'animaux qui ont pu aller grignoter l'herbe du voisin, mais ou l'eau qu'on avait pris sur la source alors que ce n'était pas le bon moment. Mais en règle générale, ils ont toujours évoqué cette période avec une joie absolument sans limite.
Alors, quel serait votre votre coup de cœur parmi tous ces personnages rencontrés ? Et ne me dites pas que ce sont tous vos coups de cœur.
Ah, oh là là.
Ouf là là, il a dit.
Oh là là. Non, c'est vrai que c'est difficile à choisir non, parmi tous ces gens-là. Bon, disons qu'il y a... Non, sincèrement, je serais incapable de choisir. Là, c'est une question piège, joker, parce que j'ai écouté des très belles histoires. Il y a des textes où je me rappelle avoir retranscrit presque mot à mot l'entretien, parce que je voulais à tout prix essayer de mettre l'accent de la personne pour que presque sa famille, en relisant le texte, entende leur aïeul parler, quoi. Et donc, notamment, je me rappelle sur Curban avoir retracé une histoire et en la relisant, j'entends encore la personne parler, chanter presque. Mais voilà, disons qu'on a essayé d'être le plus fidèle possible, bien entendu. C'est pour ça que ce n'est pas un travail scientifique, hein. Donc surtout pas, parce que... On n'a aucun talent et aucune formation dans ce domaine, mais on a essayé, voilà, c'est des coups de cœur qu'on a voulu retranscrire, parce qu'il nous semblait important pour les générations à venir qu'elles connaissent un tout petit peu, qu'elles soulèvent un tout petit peu le voile de ce passé voilà, qu'elles n'ont pas connu ou déjà oublié.
C'est vrai que nous sommes parfois à des années-lumière de ce qu'on lit dans ces témoignages-là, pour lesquels je précise, parce que je crois que je ne l'ai pas encore dit, qu'il y a des passages dans la langue locale qui sont traduits également. Donc là, ça demande quand même une compétence un petit peu plus que simplement de la collecte.
Voilà. Disons que voilà, on a essayé sur chaque témoignage d'avoir également une expression du patois local. Et puis bien entendu, donc on a fait des traductions. Enfin, donc on a pris pour cela des compétences, des personnes qui maintiennent encore, mais ils sont vraiment là, ils se comptent plus que sur les doigts d'une main. Les personnes qui sont susceptibles de nous traduire dans un sens comme dans l'autre, dans le patois local. Et c'est vrai que pour nous, ça faisait partie de ce travail-là que de transcrire au moins une fois ce patois, parce qu'à notre connaissance, il n'a jamais été structurellement retranscrit. Moi.
Alors, je serais bien incapable de vous le lire en patois, hein, mais bon, je vous conseille vivement d'aller voir ces petits livres. Et moi, j'ai envie de vous parler de Marceau Davin.
Ah.
Marceau Davin, c'est l'homme qui aimait planter les arbres, dites-vous en entrée, mais je vois que c'est le dernier bouilleur de crue également, hein.
Oui, sur Faucon du Caire.
Dernier bouillon de crue de Faucon, grâce à ses quelques pieds de vigne. Il n'aurait jamais renoncé à son quota de gnôles qu'il ne se privait pas de compléter par quelques visites clandestines à Valcérès. Il dispersait aux quatre coins de la forêt des bouteilles de gnôles, au cas où, ici dans un tronc mort, là dans une ruine, ces fioles faisaient le bonheur de tous ceux qui connaissaient ses caches. D'ailleurs, l'une de ces fioles, oubliée de tous, continue aujourd'hui de vieillir son mar près de quelques cabanons en ruine du côté de la Garduelle. Alors moi, j'ai quand même une question, parce que la réputation des terres de Faucon concerne-t-elle autant les bouteilles que le gibier? Et si vous avez eu cette idée absolument extraordinaire de mettre des rochers qui parlent dans ce paysage, est-ce qu'il y a un jeu de pistes pour trouver les bouteilles de gnôles?
Ah. Non, malheureusement, elles ont toutes été pillées, ces malheureuses bouteilles. Marceau Davin, qui était donc de Faucon, c'était un peu le dernier... C'était le braconnier tel qu'on peut l'imaginer dans l'imaginaire ancien, où ces personnages sont absolument remarquables par la connaissance des animaux, des lieux, des quartiers. Et c'est vrai que c'est un monde, ça aussi, disparu. Je me rappelle très bien son anecdote où il avait en hiver, c'était interdit bien entendu, il craignait la présence des gendarmes, il était allé sur une colline au-dessus de Faucon du Caire, sur un sommet qui était enneigé à ce moment-là, voir un peu ce que donnaient ces pièges à loups notamment, puisqu'il avait des pièges à loups, mais qui ne chassaient pas le loup, puisque le loup à l'époque n'existait plus, même s'il revenait de nos jours avec les problèmes que l'on connaît. Mais à l'époque, il utilisait ces pièges pour attraper un peu tout ce qui pouvait passer par là. Et ce jour-là, dans le piège à loup, il avait trouvé un aigle certainement au moins plusieurs fois, je ne dirais pas centenaire, parce que ça n'est pas possible, mais certainement 30 ou 40 ans, avait un vieil aigle bien dur et bien tenu, comme c'était un braconnier à l'époque. Le braconnier, dès l'instant où il attrapait un animal, quel qu'il soit, ben, il fallait qu'il le mange, parce que c'était pour essentiellement se nourrir qu'il attrapait des animaux. Donc il est redescendu au village, dans la neige, en évitant bien entendu de tomber sur les gendarmes, parce qu'il était dans la plus totale infraction, mais il s'en accommodait complètement. Et arrivé chez lui, eh ben, son aigle, il a décidé de commencer à le faire cuire. Et puis il a essayé, le premier jour, il a essayé de le mettre à la poêle. Le deuxième jour, il a essayé de le faire bouillir. Le troisième, enfin, il a mis une semaine pour essayer tous les modes de cuisson possibles et inimaginables, parce qu'il s'était fait un devoir de devoir consommer cet aigle qu'il avait ramené depuis le sommet de Rocheclin. Et il a dû renoncer peut-être au bout d'une quinzaine de jours, après tout, après avoir épuisé toutes les recettes possibles et inimaginables, parce que son aigle était vraiment trop vieux. Mais je trouvais cet esprit du braconnier chasseur-consommateur vraiment complètement conforme à l'idée qu'on pouvait se faire de ces gens-là et de la sagesse qu'ils portaient.
Oui, tout à fait. Ce sont des témoignages qui parlent vraiment d'humanisme, oui. Je dirais. C'est-à-dire que le braconnage, oui, on pouvait, dans la mesure où c'était pour nourrir la famille. Quoi.
Complètement.
C'était pas,
tout à fait.
Et oui, c'est valable pour...
C'était pas mercantile. Quoi.
Voilà. Oui. C'était, vous avez aussi l'histoire de l'âne qui porte les bonbonnes de vin et qui se renverse. Et depuis, le propriétaire de l'âne ne jura jamais plus. Vous nous racontez cette histoire, vous l'avez en tête.
Ah oui. C'était le... Elle était jolie aussi, celle-là. Oui, effectivement, c'est le père de Charlot Rampon, et qui promenait son âne, parce qu'il habitait en montagne, dans une maison isolée, avec toute sa petite famille, qui était à l'écart. Et il vivait vraiment de très, très peu de choses, très, très peu de choses. Et cet homme-là avait la particularité d'avoir une femme qui était très dévote. Et lui, par contre, il avait un usage assez particulier du juron.
Il jurait beaucoup.
Il jurait volontiers, quoi. Autant elle était dévote, et autant lui, il jurait. Et donc, un jour, donc, il ramenait son ânesse avec des dames jeunes pleines de vin. Vers cette maison complètement isolée en pleine montagne. C'est une petite ferme complètement isolée, maintenant en ruine. Et il se trouve que, pour reprendre l'expression locale, la nesse s'est bondie, c'est-à-dire qu'elle a glissé sur un chemin et puis qu'elle est tombée en contrebas. Et alors là, il s'est mis à jurer vraiment tout ce qui pouvait sortir du chapelet de ses connaissances. Et pour essayer de récupérer, et puis il s'était promis que si la nesse était encore en vie, et ses dames Jeanne pleines de vin aussi, parce que pour lui c'était de l'or, il avait promis de ne plus jurer, et donc... Et le miracle a eu lieu, effectivement, il a retrouvé la nesse et dames Jeanne intactes, et c'est sa femme, dévote, qui a été certainement la plus surprise de lui voir, du moins quelques instants, respecter le contrat qu'il avait signé avec le bon Dieu.
Voilà, ces livres sont complètement, et tous les trois, émaillés de ces anecdotes et de ce petit bonheur des yeux, de l'imaginaire. Voilà. Alors, avant d'aller plus loin, parce que le temps passe à une vitesse redoutable, on va peut-être écouter un autre de vos choix musicaux.
Un peu parti, un peu naze, je descends dans la boîte de jazz, histoire d'oublier un peu le bout de ma vie. Les gars me regardent énervés, c'est pas net tu mets sur mon pas d'amour de désir.
L'orchestre s'installe du professionnel.
Come on boy,
c'est moi qui se perds.
Hey,
Par cœur, je connais par cœur.
Hey, peace, the jusqu'à la Seine. Dans un coin, un orgue m'a dit, ça y est, je transpire, timidité surhumaine. Et si c'était la chance de ma vie, je me lance, allez, tant pis. Histoire de reprendre un peu le cours de ma vie.
Alors Daniel, merci, parce que là on était dans le jazz, alors du coup c'était on est revenu sur sur quelque chose qui fait vraiment partie de votre vie.
Hein, oui, c'était un petit clin d'œil sur une tranche d'existence.
Tranche de vie. Alors, pour clore ce chapitre de votre vie multiple, je vais vous lire quelque chose que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le pain quotidien.
Ah oui, c'est très très beau.
Alors, vous nous dites dans quel contexte ?
Oui, c'était en fait une personne sur... C'était un témoin... très important pour nous, qui était sur le village de Thuriez et qui nous a raconté cette histoire. Elle était passionnée d'écriture et donc elle écrivait plein de petits poèmes. Et on a trouvé celui-là particulièrement harmonieux, surtout que c'est à partir d'une histoire vraie. Et on vous la laisse raconter.
Alors, je vais raconter. Le pain quotidien. Un appel angoissé venait de résonner. « au secours, venez vite, malheur est arrivé. » C'était l'écho des barnes qui le répercutait. Il venait de la cabane, là-haut, de chez Lisée. Laissant les attelages, les herses, les charrues, dans les champs environnants, ils étaient accourus. Qu'est-il arrivé à ce pauvre Lisée ? En dételant les bœufs, il l'avait éventré. Une voix s'éleva, « emmenez les enfants !» C'était insoutenable, même pour les plus grands. Qu'on apporte des draps pour pouvoir le poser, que l'on fasse un brancard, il faut le transporter. Mais Lisée, étendu sur la terre battue, fit un signe de tête, conscient d'être perdu. Il était bien trop tard et il avait compris que son sang qui coulait lui emportait la vie. Les braves paysans s'approchaient de Lisée, il leur dit quelques mots, il était épuisé. Et lorsqu'il se signa, le prêtre était là. Voilà, c'était fini. À l'Angélus, on sonnerait le glas. Tout en le veillant, les hommes murmuraient. Il avait tout semé. Nous vendrons, moissonnerons, nous viendrons engranger, et ainsi tous les ans, tant que le fils aîné n'aura pas ses 15 ans. Il fallait avant tout que la veuve, les orphelins, comme par le passé, aient leur pain quotidien. Car en 1900, chez nos bons paysans, pas besoin de slogan. La solidarité, il l'avait en naissant. C'est
une belle histoire. Hein.
Une belle histoire. C'est émouvant. Et c'est bien ce que vous dites dans votre épilogue, hein, à ces trois livres-là. Alors déjà, je vous ai souvent entendu dire que vous supportiez très mal que la vie passe et que tous ces témoignages se perdent. Et finalement, lorsque ces livres sont là, hein, et c'est ça, je pense qu'il restera fort aussi, ce sens de l'humain, ce sens de la terre que vous avez porté et donné avec Karine. Hein,
on
pourrait dire quelques mots de Karine quand même.
Oui,
parce
oui
que
mais Karine est là. Oui, tout à fait. C'est la personne qui est en charge de ce projet et qui donc s'est investie complètement pour la bonne réalisation de cette entreprise qui vous dit a duré à peu près 2 ans.
Et oui, alors nous avons pu, au hasard de ces multiples entrevues, découvrir les différentes facettes de la vie dans notre arrière-pays avec ses commerces, ses guérisseurs, ses curés, son facteur, ses moissons, ses traditions, son braconnage, sa lavande, sa précieuse eau, ses productions spécifiques, sans oublier les affres de guerre passées qui auront tant marqué ces hautes terres.
Oui.
Alors, un petit moment, un petit peu d'émotion quand même, parce que je trouve que c'est un remarquable travail. Et maintenant, sur ces hautes terres, vous avez planté, non pas des arbres, mais des rochers. Et de surcroît, des rochers qui parlent.
Oui, et ceux-là, ils sont en résine, ceux-là. C'est pas très poétique, mais ils ont la vertu éventuellement de colporter le conte.
Oh, et puis de toute façon, ils sont remarquablement bien faits, parce que parfois, on se casserait le nez. Si on ne voyait ce petit strigle vert qui se voit un petit peu de loin, je crois qu'on pourrait prendre vos faux rochers pour des vrais rochers.
Ah, oui, d'ailleurs, je me rappelle très bien une anecdote sur un village qu'une personne d'un des villages, c'était sur Sigoyer. Elle avait demandé elle était tombée amoureuse de notre rocher sans se rendre compte que c'était simplement une copie en résine. Et elle avait demandé à son mari d'aller chercher avec son tracteur et son tractopelle, d'aller le récupérer pour le mettre devant chez elle. Donc heureusement que l'information lui est parvenue que ce rocher était une reproduction et non pas un roc.
Alors avant de vous laisser quand même poursuivre sur le sujet, je voudrais juste raconter... moi, quand j'ai découvert ce rocher, ce premier rocher, hein, y a là un rocher. Alors, à l'époque, ce petit strigle vert, je ne le voyais pas parce qu'il était de l'autre côté. Il y a des arbres tout autour. Alors maintenant, je sais qu'il y a un capteur que je ne voyais pas qui était dans les arbres. Et là, on pose la main sur ce rocher. Alors, on a quelque chose dans la main, certes. Et tout d'un coup, il y a une voix qui s'élève. Et je crois que c'est vraiment... C'est magique, cette histoire-là. Comment vous est venue cette idée, Daniel ? Parce que c'est bien beau de parler du pourquoi on a mis ces rochers-là. Enfin, quand même, quelle drôle d'idée ou quelle magique idée. Le génie parlait donc en vous ?
Non, certainement pas. Non, non. Lorsqu'on avait fait tout ce travail d'inventaire du patrimoine, et donc après ce livre sur itinérance médiévale, donc on s'est rendu compte que finalement, ce petit territoire, qui est finalement qu'une grande ferme, parce que toutes les personnes qui vivaient dans ces villages souvent cherchaient compagne ou compagnon dans le village juste à côté. Et donc, que ce soit... Donc, finalement, de tout ce territoire, on s'est rendu compte qu'il n'y avait que dans les livres du passé qu'on pouvait trouver de la matière à valoriser. Et donc, on a choisi de proposer des itinérances aux personnes, que ce soit les touristes et les visiteurs, toutes les personnes qui sont susceptibles de venir promener un peu dans ces hautes terres de Provence. Et on leur a proposé, avec des badges, comme vous évoquiez précédemment, donc de faire parler ces rochers, alors sur plusieurs thèmes, c'est-à-dire soit sur le principe d'un jeu de piste pour aller de village en village, c'est ce qu'on appelle le sentier des contes.
Alors, il y en a plusieurs d'itinéraires. Combien d'itinéraires ?
Voilà, il y a à peu près une dizaine d'itinéraires qui sont tous d'inspiration médiévale. Mmh. Alors, hein, sur la peste, sur les guerres de religion...
La sorcellerie, les loups.
Voilà, la sorcellerie, les loups, enfin, disons, tout ce qu'on a pu retirer de ce travail d'inventaire du patrimoine sur cette période médiévale. Et donc ça, c'est sur le principe un peu du jeu de piste. Vous allez dans un premier rocher, puis vous devez résoudre des énigmes pour trouver le deuxième rocher qui est dans le village suivant. Vous vous déplacez vers ce deuxième village, vous essayez de retrouver le rocher et vous écoutez l'épisode suivant de cette histoire qui comptait donc d'épisode en épisode, de village en village. Et vous découvrez ainsi le territoire de façon un peu originale.
Avec un lien visuel, bande dessinée,
dirais. Une bande dessinée donc, sur laquelle on trouve le fameux badge qui va permettre de faire parler les rochers. Et ces bandes dessinées ont été faites par deux dessinateurs de BD qui étaient de notoriété, qui sont de notoriété, un des deux qui est décédé durant le projet, qui s'appelait Michel Crespin, qui était considéré un peu comme le pape de la BD par ses co-religionnaires, et le projet a pu se terminer avec l'aide de Dominique Rousseau, qui est un dessinateur de BD d'Avignon, et qui s'est totalement investi aussi pour reprendre le flambeau laissé par Michel. Voilà. Donc il y a cette espèce de BD, de ce petit livret là, qui donne un peu l'élément de continuité.
Mais vous parliez d'itinérance. On fait ces voyages à pied, à cheval, en voiture?
Voilà, on pourrait le faire à cheval, effectivement. Mais ce qui est certain, c'est que pour aller d'un village à l'autre, en général, ils sont distants tous à peu près de 4-5 km. C'est mieux d'utiliser un engin motorisé, voire un vélo électrique, parce que ça monte et ça descend beaucoup. Mais voilà, donc on va d'un village à l'autre avec un moyen de locomotion. Et puis on découvre de rocher en rocher une histoire sur un thème particulier qu'on a choisi. Bien entendu, c'est quelque chose qui est très agréable à faire en famille, avec les enfants, parce que c'est une façon de découvrir un territoire de façon un peu originale, parce que ça nous fait découvrir des lieux dans lesquels nous ne serions jamais allés si nous n'avions pas eu cette opportunité de ces sentiers d'école.
D'accord, donc l'idée est venue de votre travail précédent sur l'histoire.
Voilà, sur tout l'inventaire du patrimoine que nous avons pu faire, parce que comme on s'est rendu compte qu'on n'avait pas une citadelle de Sisteron, on n'avait pas un château de Talard, on n'avait rien en matière de bâti. On a quand même une belle église sur Bayon, mais disons, avec ça, il n'y avait pas de quoi, déplacer des foules. Mais voilà, donc on a décidé finalement de partir dans ce virtuel un peu là.
Et c'est votre passé d'informaticien qui a été là-dessous.
Voilà, c'est vrai que c'était un lien avec la vie passée d'électronicien.
D'accord. Il y a un sentier, me semble-t-il, qui se fait sur plusieurs jours, non?
Voilà.
Avec un arrêt dans un refuge.
Voilà, ça, c'est un sentier qui était pédestre uniquement et qui, lui, nécessite de marcher de longues heures. Alors, celui-là passe par les montagnes, effectivement. C'est le thème sur les loups.
Voilà. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose derrière des loups.
Mais on ne va pas évoquer cette piste-là.
On ne va pas évoquer la piste des loups. Non, on va éviter en ce moment. C'est un petit peu difficile. Alors, la deuxième vie de ces rochers.
La deuxième vie de ce rocher. Alors là, c'est un projet qui vraiment tourne autour du conte, parce que c'est des conteurs qui ont donné de leur temps pour alimenter une banque de données de contes. Alors des contes de conteurs tous francophones qui viennent du monde entier, que ce soit des Indiens canadiens, des gens qui viennent de Kabylie, qui viennent de France, enfin de tous les horizons francophones du monde, qui ont constitué donc une base de données, puisque nous avions donc ces rochers qui étaient susceptibles de parler sur l'idée d'un de ces conteurs. Qui disait, bon, c'est bien beau tes histoires, mais moi, tant qu'à faire, dans le rocher, je préférerais...
Là, j'entends Daniel Lomont,
voilà.
je l'entends.
Je préférerais que ce soit mes histoires qu'on entende conter et non pas tes bricolos sur le Moyen-Âge.
Oui,
donc, à partir de sa magnifique idée, et jaillit le concept sur le thème des contes. Alors à partir de là, ça veut dire qu'avec un badge, on a une vingtaine de rochers qui parlent, qui sont disséminés dans tout ce territoire. Et dans ces rochers, on instille des contes qui sont retirés depuis cette base de données grâce à tous ces dons, on peut dire, ces dons.
Ces dons, le partenariat Conseil Général,
complètement, médiathèque, Conseil Général, enfin tout ce qui est en rapport avec les rencontres de la parole, puisque finalement ce sont des compteurs qui sont tous issus des rencontres de la parole. Et donc, grâce à ce travail, ce partenariat, eh ben, voilà, sur une idée, on peut dire, de Daniel Laumont.
Oui, tout à fait. Mais Daniel Laumont, il avait aussi une idée qui était approuvée avec l'imprimatur nécessaire. Mais une idée de maison de la parole, quand même.
Ah oui, ça, on remue une petite blessure. Là, c'est une petite blessure. On va remuer un petit couteau dans la plaie, mais on ne va pas insister. Mais c'est vrai que c'était...
On ne va pas insister, mais peut-être que dans ce...
Oui, là, c'était un très beau projet parce que, disons que c'était un travail, comme on s'était tellement imprégné de ce milieu du conte, des conteurs, on a vu un monde qui était vraiment merveilleux avec des gens passionnés et on voulait leur donner l'opportunité finalement de faire vivre encore un peu plus leur passion, leur conte. Et on avait élaboré un projet autour de la création d'une maison de la parole sur le village de Sigoyer, dans les Alpes de Haute-Provence, hein, puisqu'il y a deux Sigoyer. C'est le Sigoyer Malpoil, celui qui est à côté de Sisteron, non pas celui qui est sous le pic de Bure. Et donc, voilà, donc ce projet, pour différentes raisons, n'a pas pu... Et voilà, il est resté à l'état de... Sa genèse n'a pas pu évoluer suffisamment.
Et oui, il n'empêche que l'idée d'avoir une résidence autour de...
C'était autour des ruines du château de Sigoyer que le... dont le propriétaire avait mis à disposition pour ce projet. Donc vraiment, c'était bien avancé, mais il n'a pas pu arriver à son terme. Ça nous a procuré quelques contrariétés, mais bon...
Non, mais le projet reste quelque part dans la tête, et puis peut-être un jour naîtra-t-il. Voilà, savoir.
On ne va pas savoir.
On ne veut pas savoir. Et dans ces itinéraires, il y a aussi, je crois, un itinéraire... pour les personnes à mobilité réduite.
Absolument. Alors ça, c'est dans le sentier. Voilà. De toute façon, il y a un itinéraire pour les personnes à mobilité réduite, que ce soit pour écouter les contes ou que ce soit pour les aventures médiévales. En l'occurrence, c'est une aventure qui concerne une amie de Dominique Rousseau, que Dominique Rousseau avait dessiné donc, sur le thème des cataclysmes de l'époque, puisqu'il y a en fait en 1492, il y avait eu de telles inondations qu'il y avait eu des glissements de terrain et qui ont marqué terriblement le territoire. C'était la même année que Christophe Colomb était allé faire des folies en Amérique. Et bien là, en l'occurrence, le SAS avait créé des petits avatars sur le territoire.
D'accord. Alors... lorsque j'ai téléphoné à l'office intercommunal la semaine dernière, Karine était en train de remettre des comptes et des textes, si j'ai bien compris, de remettre en place ces rochers.
Voilà.
Ça veut dire que la saison, à partir des vacances de Pâques, on va pouvoir enfin retrouver des rochers qui parlent.
Les rochers vont se remettre à parler à partir du 15 mars. En général, on arrête ça le 15 décembre. Donc, du 15 mars au 15 décembre, les rochers,
sont
oui,
muets.
Absolument.
Voilà,
du 15 décembre au 15 mars, ils sont muets et puis ils se remettent à blagoter à partir du 15 mars. Tous ces rochers fonctionnent en fait d'un point de vue énergie avec des petits panneaux photovoltaïques. Et donc, voilà, ils sont complètement indépendants, en autarcie complète énergie. Alors, c'est vrai que ça vient un peu à l'encontre de la connexion dans laquelle nous sommes en permanence maintenant avec le monde actuel. Ça va un peu à l'encontre de tout ça. Mais c'est une façon de se retrouver déconnecté de tout et de partir sur... Voilà, sur un autre monde, peut-être plus humain.
Oui, et puis alors moi, j'insiste bien, essayez, allez donc voir ce que sont ces rochers qui parlent. Mais... Ça a un côté absolument, je ne sais pas, c'est féerique, enfin, c'est magique, c'est vraiment quelque chose à découvrir.
Oui, et puis surtout, ça redonne l'occasion, à longueur d'année, là, de pouvoir réécouter des personnes qui sont remarquables. Vous avez vu qui est à l'heure, Daniel Laumont. Ah, moi, je sais que... Si vraiment j'ai été époustouflé par un conteur, c'est bien par lui.
Et Robert Seven Cruz aussi.
Ah, Robert Seven Cruz aussi, c'est vrai. Mais c'est vrai que, bon, un coup de cœur particulier pour Daniel Laumont et Robert aussi, c'est vrai.
Ah, parce que
c'est du même niveau. Et c'est vrai que ça nous donne l'occasion, ces rochers qui parlent, de réentendre à longueur d'année ces personnes qui sont passées souvent de façon éphémère sur le département.
Ah ben oui, mais on ne pouvait pas trop les garder trop longtemps quand même. Ça coûte beaucoup de sous.
Oui, voilà. Mais c'est une façon de pouvoir les écouter directement
en
pleine nature.
Mais l'histoire aussi, l'histoire du pays au travers du sentier des comptes habituels aussi.
Oui, complètement. Les deux aspects sont, je pense, complémentaires et s'adressent un peu à deux facettes de l'être. Hein. Donc, je pense que c'est... Une part de rêve, une part d'émotion, une part de littéraire. Oui,
ça parle à l'humanité en nous.
Et oui, voilà.
Ça alors, fait... il est dit un petit peu tard déjà. On va peut-être dire à Daniel à très bientôt au Caire, à la mode du Caire. Pour, parce que je ne vous ai pas dit non plus, mais il y a quand même la Via Ferrata aussi, hein,
ah oui,
pour découvrir ce pays. Ça veut dire qu'il y aura d'autres rencontres avec Daniel, peut-être, voilà. Un jour avec Odile au sommet de la voie, ça pourra être très rigolo.
Moi, j'ai toujours un petit peu peur, hein, la Via Ferrata, je n'ose pas encore. Hein.
Ah. Avec un accordéon, quand même.
Avec un bon accordéon, ça doit se faire.
Et merci, Daniel, et au revoir, à bientôt. Et puis on va écouter le dernier choix de Monsieur Gerasimenko.
Eh bien, en tout cas, merci à vous de votre invitation.
À bientôt. Au revoir.
Elle changeait les draps de l'hôtel, les traces de doigts sur les poubelles. Petite hirondelle, au milieu des corbeaux, elle chantait Desperado. Moi j'avais du retard sur le sommeil, je m'étais fait doubler par le soleil. Elle, de l'autre côté du couloir, elle faisait chanter les miroirs. J'ai passé une heure de sa vie, une heure sous le soleil d'Algérie. Sous la course des planètes, il y a des moments qu'on regrette. Derrière ses paupières mi-closes, je voyais plus de gris que de rose. Quand je suis parti, j'ai bien compris que je perdais quelque chose. Ces enfants qui font rien à l'école et qui ont les poches pleines de tubes de colle. De toute façon, personne ne t'aide quand tu t'appelles Saïd ou Mohamed. C'est le ciel en tôle ondulé pour toujours. C'est la fenêtre sur la troisième cour. C'est le cri des voisines, plein les oreilles et les heures de mauvais sommeil. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour qui comprend le mauvais français, le musulman? Sous la course des planètes, ça serait bien qu'il s'inquiète avant que ses paupières n'explosent et qu'elles prennent ce gris en overdose. Quand je suis parti, j'ai bien compris qu'on y pouvait quelque chose. Toi t'envoies 10 francs pour les enfants du Gange parce que t'as vu des photos qui dérangent. T'envoies 10 francs pour les enfants d'ailleurs parce que t'as vu des photos qui font peur et elles que tu croises en bas de chez toi. Elles que tu croises en bas de chez toi. Depuis... Je suis retourné à Marseille. Ses amis n'ont pas de nouvelles. Il y a trop d'hirondelles ou trop de corbeaux. Elle a dû changer de ghetto. Moi je crois plutôt qu'elle change les draps de notre hôtel. D'autres traces de doigts sur d'autres poubelles. De l'autre côté d'un autre couloir, elle doit faire chanter les miroirs. Chanter les miroirs. Chanter les miroirs. Chanter.